En tchèque, on les appelle rondely, une dénomination qui évoque le terme de rond en français, et en effet, ces quelques dizaines de vestiges préhistoriques retrouvés un peu partout en Europe centrale se caractérisent avant tout par leur aménagement en cercle. Il y a 7000 ans, des hommes et des femmes ont édifié et ont entretenu de monumentales enceintes à fossés concentriques, bien avant que ne voient le jour les mégalithes de Stonehenge ou les pyramides d'Égypte. Les restes d'une quarantaine de ces enclos préhistoriques ont été retrouvés sur le territoire tchèque. Cette architecture fascinante, qui suscite plus de questions qu'elle ne donne de réponses, est l'objet du premier épisode de notre nouvelle série consacrée à l'archéologie. À quoi pensaient les hommes et les femmes qui, il y a 7000 ans de cela, se rassemblaient au sein de ces monumentales enceintes à fossés multiples dont on a retrouvé les traces un peu partout en Europe centrale? Quelles idées ont présidé à l'impulsion menant à leur construction? Ces premiers agriculteurs du néolithique y rendaient-ils hommage à des dieux? Faut-il chercher dans ces architectures en cercle orientées une dimension astronomique, ou ces enclos n'étaient-ils qu'un simple lieu permettant de souder une communauté, ou encore un lieu multifonctionnel permettant un peu tout cela à la fois? Une chose est sûre, l'archéologie nous permet de poser de nombreuses questions et il faut parfois humblement savoir se contenter de réponses hypothétiques, d'un éventail d'explications possibles. Soulever des questions, tenter de trouver des interprétations, c'est comme pour tous les archéologues, le pain quotidien de Jaroslav Rzitki, spécialiste du néolithique et notamment de l'architecture monumentale en Europe centrale et membre de l'Académie des sciences. Il nous explique tout d'abord quelles étaient les caractéristiques de ces enceintes à fossés, ces fameux rondely.
Rondely označujeme, jsou vlastně pozůstatky po kruhové architektuře.
Ces enceintes sont en fait des vestiges d'architecture circulaire dont il ne reste aujourd'hui que des empreintes au sol. Il s'agit de fossés circulaires et d'extensions internes plus petites que nous appelons fosses à palissade, où nous avons retrouvé des empreintes de piquets que nous appelons trous de poteaux. Ces édifices sont toujours disposés en cercle. Il y a des entrées qui mènent au centre du système, 2, 3, 4, parfois plus, mais 4 entrées est le modèle le plus courant. Ces ensembles pouvaient atteindre un diamètre allant de 30 à, disons, 240 mètres, avec des tranchées au nombre de 1, 2, 3 et très rarement 4. Les types d'enceintes les plus courantes se situent entre 60 et 80 mètres. On les trouve disséminés sur une zone assez vaste, allant de l'Allemagne de l'Ouest, en passant par la République tchèque, la Pologne et le sud-ouest de la Slovaquie, l'ouest de la Hongrie et l'Autriche. Elles apparaissent à la même période, dans la première moitié du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Ce qui est également intéressant avec ces édifices, c'est qu'on les retrouve à cheval sur plusieurs cultures archéologiques.
Les premières découvertes de ces enceintes à fossés remontent à la seconde moitié du 19e siècle. À cette époque, de grands booms tous azimuts de l'archéologie, une discipline alors encore à cheval entre la recherche amateur et l'approche scientifique, personne ne sait alors ou ne parvient réellement à comprendre de quoi il retourne. Les vestiges sont à l'époque interprétés comme des édifices défensifs ou encore comme des enclos à bétail. Les années 1980 et 1990 représentent une véritable petite révolution dans la mise au jour des enceintes circulaires, d'abord grâce à l'archéologie aérienne et depuis peu grâce aux drones plus légers, faciles d'utilisation et surtout moins coûteux.
Par voie aérienne, il y a plusieurs manières de détecter la présence de ces enceintes. Par exemple, dans les champs, lorsque mûrissent les céréales, le colza, on remarque qu'aux endroits où se trouvent des vestiges sous la surface, les céréales prennent plus de temps à mûrir. Ou alors, il y a des épis plus hauts ou plus courts qu'ailleurs. Il y a des différences en termes de structure du terrain. On y trouve des contrastes avec le milieu environnant. Là où se trouvait un édifice qui s'est retrouvé enfoui, le sol est plus sombre au niveau des remblais. Ou alors, même si c'est plus rare comme phénomène, lorsqu'il a neigé et que la neige se met à fondre, elle reste plus longtemps à ces endroits. Nous avons fait plusieurs découvertes récentes, et pas seulement sur notre territoire. En Autriche, par exemple, grâce au balayage du sol au scanner, nous pouvons retrouver de nombreux édifices. Il s'avère que certains d'entre eux, des édifices circulaires, se sont conservés sous forme de monticules, ce qui est une découverte récente. Cela permet d'éclairer un peu le fonctionnement de ces enceintes, de savoir ce qu'il est advenu de la terre qu'ils ont déterrée au moment où ont été creusés les fossés. Plusieurs théories ont été avancées, mais nous savons maintenant qu'il s'agissait de monticules conservés à l'extérieur des fossés, ce qui donnait un effet visuel à l'ensemble du site.
Parce que l'essentiel des structures de ces enceintes circulaires était en bois, les fouilles archéologiques ne peuvent révéler que le négatif des piquets, probablement placés côte à côte, bien serrés les uns contre les autres dans les rainures circulaires intérieures. Matériaux peu pérennes, le bois, lui, a disparu dans la nuit des temps. On suppose ainsi que les fossés bordés de monticules résultant du déblaiement enserraient des palissades internes qui pouvaient atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur, fermant visuellement la zone centrale de l'enclos à l'observateur extérieur. Environ 200 enceintes circulaires à fossés ont été mises au jour en Europe centrale, dont une quarantaine rien qu'en République tchèque. Si en Allemagne, le célèbre cercle de Gosseck dans le land de Saxe-Anhalt a fait l'objet d'une reconstitution à l'intention du grand public, ce n'est malheureusement pas le cas en Tchéquie. Pourtant, le territoire tchèque a révélé d'impressionnants vestiges de ces édifices préhistoriques.
En Tchéquie, il n'existe pas d'enceinte circulaire qui soit conservée de manière à être visible dans le paysage. Mais des traces de vestiges, il y en a plusieurs. J'en mentionnerai deux. Lors de la construction du contournement de collines, 3 enceintes de ce type ont été découvertes, dont l'une est la plus grande d'Europe centrale. Elle faisait jusqu'à 240 mètres de diamètre. Il y avait 3 tranchées creusées, entièrement achevées, et la quatrième n'était pas terminée. Mais si elle l'avait été, nous aurions ainsi eu un ensemble grand de 240 mètres. Il y avait 4 entrées préservées dans le centre, et c'était clairement le plus grand édifice de ce type en Europe centrale. On appelle même cela un méga-enclos. Autre fait intéressant, à une cinquantaine de mètres de là, une autre enceinte a été construite à peu près à la même époque, mais cette fois avec un seul fossé. Là encore, elle avait 4 entrées, mais elles étaient placées à des endroits légèrement différents de ceux de son immense voisine. Puis, je mentionnerai certainement l'enceinte de Trchebovietice, dans le district de Hitchin. On l'a retrouvée en forêt, préservée grâce au monticule, dont l'existence a fait l'objet d'un débat entre experts au cours des 30 à 40 dernières années. Pour autant que je sache, il y a environ 4 édifices de ce type dans toute l'Europe centrale. 3 d'entre eux se trouvent en Autriche et l'un se trouve ici, en Tchéquie.
Ces enceintes circulaires à fossés ont commencé à être édifiées et utilisées vers moins 4800 avant Jésus-Christ et leur déclin progressif est à dater d'environ 150 à 200 ans plus tard. C'est donc sur une très courte période correspondant à quelques générations à peine que des hommes et des femmes sédentarisés depuis un millénaire ont ainsi éprouvé le besoin de se mobiliser et en masse au vu de la monumentalité des édifices pour mettre en œuvre ces enclos. Comme dans de nombreux cas de figure au fil de l'histoire, l'aspect colossal du site ne peut que forcer à l'humilité l'observateur contemporain. Loin des clichés qui, faute de traces écrites, ont longtemps prévalu sur la préhistoire et à ses peuples considérés comme primitifs, il faut relire cette période à l'aune de ce que ceux-ci nous ont laissé. Des édifices bâtis avec des techniques sans doute rudimentaires à nos yeux habitués aux technologies de pointe, mais qui l'ont été par par des hommes et des femmes mus par une volonté d'accomplir un projet collectif, une volonté assez forte pour dépasser d'éventuelles limites matérielles ou physiques. Au contraire, ces vestiges sont donc la preuve d'un véritable savoir-faire. L'archéologie expérimentale nous permet d'ailleurs de soulever des hypothèses sur la durée de construction des enceintes et le nombre de personnes impliquées à ces travaux. En Basse-Autriche notamment, une de ces enceintes a été reconstruite sur le site de Schletz. Les tentatives de refaire à l'identique avec les techniques supposées de l'époque montrent que la construction devait être de l'ordre de 2 ou 3 ans en fonction de la taille de l'édifice et que 100 à 200 personnes ont dû travailler sur le chantier tout en devant gérer par ailleurs les activités quotidiennes de leur vie ordinaire. Pour construire les palissades, des centaines voire des milliers d'arbres ont dû être abattus, transportés, levés, plantés et mis côte à côte. Tout ceci suppose donc une véritable organisation avec possiblement une ou plusieurs personnes ayant réfléchi au préalable à la conception de l'ensemble. On est donc loin, bien loin des idées préconçues sur les populations d'avant l'invention de l'écriture.
Můžeme vycházet z různých analogií na jiných územích a můžeme vycházet.
Pour essayer de les comprendre, nous pouvons fonctionner par analogie avec d'autres cas de figure dans d'autres territoires et nous pouvons nous appuyer sur l'anthropologie sociale et culturelle. Construire un tel édifice a dû nécessiter une organisation et a dû prendre un certain temps. Cela indique des tentatives d'imposer une forme de pouvoir, des tentatives de prise de pouvoir. Mais ce n'est pas forcément selon des modèles que nous avons en tête aujourd'hui, avec quelqu'un qui aurait essayé de contrôler les populations locales et d'acquérir des richesses, du pouvoir, et ainsi de suite. Il devait exister de nombreux systèmes sociaux, comme nous le savons, grâce à l'anthropologie culturelle, et certains d'entre eux n'existent peut-être même plus aujourd'hui.
Même à des périodes différentes et éloignées d'entre elles, l'imaginaire de ces populations a par ailleurs été marqué par la figure géométrique du cercle que l'on retrouve ailleurs dans le monde. Un des exemples monumentaux les plus fameux étant les pierres levées des îles britanniques, le cercle de Stonehenge en tête. Pourtant, les enclos à fossés d'Europe centrale se révèlent uniques en leur genre par leur ancienneté sur notre continent.
To úplně neplatí, protože období neolitu začalo v určitých v různých částech.
La période néolithique s'est déroulée de manière différenciée selon les régions d'Europe. Nous savons que dans le sud, en Méditerranée et dans les Balkans, nous trouvons des preuves de l'existence de sources d'alimentation issues de la domestication au 7e siècle avant Jésus-Christ. En Europe centrale, c'est vers 5500 avant Jésus-Christ. En Europe du Nord et du Nord-Ouest, c'est toujours 500 ans plus tard. Les enceintes à fossés sont les plus anciens témoignages d'architecture de toute l'Europe. Les bâtiments mégalithiques et les célèbres anges des îles britanniques sont beaucoup plus récents. Le site de Stonehenge, par exemple, est 1500 ans plus récent que nos enceintes à fossés d'Europe centrale. Le symbolisme du cercle a toujours incité les archéologues à diverses interprétations, mais il reste difficile de confirmer ou d'affirmer celle-ci aujourd'hui. Nous connaissons des édifices d'architecture circulaire bien plus anciens, au Proche-Orient, et qui remontent à la première moitié du 10e millénaire avant Jésus-Christ. C'est donc 5000 ans avant ces enceintes à fossés. Dans le sud-est de la Turquie, des chercheurs se posent les mêmes questions. Il s'agissait probablement de sortes de temples bâtis en pierre et non en bois, comme les enceintes qu'on trouve chez nous.
Il faut donc imaginer ces sites du néolithique d'Europe centrale comme à Kolyne, Trebovietice ou Bilani, où convergeaient les habitants de différentes implantations humaines alentour, plutôt comme des sanctuaires, des lieux de rassemblement, tout à la fois rituels et sociaux, les deux fonctions n'étant pas incompatibles si l'on pense à celle d'un édifice religieux jusqu'à nos jours. Du lien social créé par la mise en commun du savoir-faire et des forces physiques visant à créer un sanctuaire servant à la collectivité élargie découle le lien social né ensuite de l'utilisation rituelle du site, même si là les détails de toute cérémonie qui a pu s'y dérouler restent impossibles à déterminer.
ty vstupy do rondelů bývají různě orientovány.
Une chose est sûre, les entrées des enclos circulaires étaient orientées. Les archéologues travaillent donc avec des astronomes qui examinent l'orientation de ces entrées et qui peuvent dire que ces entrées n'ont pas du tout été construites au hasard. Celles-ci sont par exemple orientées en direction de certaines formations naturelles dans le paysage. En outre, à certains moments de l'année, par exemple à l'équinoxe de printemps ou lors du solstice, le soleil se lève ou se couche à un moment précis dans l'axe de ses ouvertures. On peut donc supposer que ces édifices avaient une fonction rituelle. À cette fonction rituelle, il faut ajouter une fonction qui ne fait probablement plus de doute aujourd'hui, c'est la fonction sociale. Le rituel social a donc permis de rassembler dans cet endroit un grand nombre de personnes provenant probablement d'une zone plus étendue. On suppose en effet que le nombre de personnes vivant dans une seule bourgade était insuffisant pour réaliser et mettre en œuvre un édifice de ce type. Des gens d'autres lieux alentours ont dû y participer.
Sept mille ans plus tard, les archéologues tchèques qui fouillent ces sites préhistoriques doivent travailler avec ce que le temps écoulé nous a laissé. Des empreintes au sol, ombres du passé, images négatives d'édifices disparus, des vestiges de déchets qui ont servi à remplir les fossés circulaires, des tessons de poterie et d'objets dont on peut retracer l'origine parfois à des centaines de kilomètres du lieu de la mise au jour, des indices de ce que ces lointains ancêtres ont circulé, échangé et donc collaboré ensemble, donnant à voir une image dynamique et créative de ces populations néolithiques qui ont jadis peuplé l'Europe centrale.